Laetitia Baldeschi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management. On va parler de marché et de perspective avec vous. Il y a un sujet dont on parlait peu il y a quelques mois, mais qui est aujourd'hui au cœur des questions des investisseurs, c'est le Brexit. Clairement, les investisseurs l'avaient mis de côté, et puis là, ça, on voit de la volatilité, on voit des craintes. En termes de gestion, comment on se prépare à ce genre d'événement?
Eh bien, on essaie de protéger les portefeuilles hein, pour l'essentiel, puisqu'on n'est pas du tout maître de la décision finale qui reviendra au vote des Anglais. Et donc, on protège nos portefeuilles. Alors, nous avons choisi de passer évidemment par des couvertures, toutes les poches actions, et puis de garder quelques protections sur les taux très longs américains, de façon à couvrir tout risque et être prêt à réinvestir, évidemment, le plus rapidement possible, si, et par chance, si on peut dire, le choix de rester dans l'Union européenne prévaut à la fin de ce référendum.
Alors, on a vu tout de même les marchés européens baisser avant même ce référendum. Est-ce qu'ils ont baissé quelque part suffisamment? Est-ce qu'ils ont commencé à anticiper parce qu'on a quand même eu des baisses significatives.
Oui, on a une baisse significative hein, de 7-8% depuis là sur les quelques derniers jours. Pour nous, il nous semble qu'il reste une grosse baisse à venir si par d'aventure le Brexit l'emportait. Nous anticipons dans notre scénario de risque sur le Brexit une baisse des marchés actions de l'ordre de 12,5 à 15%. Sur cet événement, bien évidemment. Là, pour le moment, on a juste des anticipations, des craintes. Hein, mais si la décision est avérée, alors le mouvement sur les marchés serait beaucoup plus important.
On a même vu certains évoquer d'équivalents à Lehman Brothers, donc c'est toujours difficile, on sent qu'on a une période un peu agitée.
Voilà, on n'est plus dans cette époque-là, il y a tout le vécu hein, depuis, mais il est clair, on le voit, le retour sur des valeurs dites de self-evident, de refuge depuis quelques jours sur les taux longs allemands, américains, sur l'or, c'est vraiment des positions de repli et d'attente. Bon, bien sûr, la réaction des marchés risque d'être importante.
Alors, on a eu aussi, bien sûr, la Réserve fédérale américaine. Là, on pourrait dire que trimestre après trimestre, vous avez fait votre réunion récemment, on recule cette échéance de hausse de taux aux États-Unis.
Effectivement, nous sommes une des maisons qui avons été le plus agressif, je dirais, en termes de prévision de hausse de taux américaine, parce que nous analysons la situation économique et nous interprétons cette situation dans le sens d'une normalisation de la politique monétaire, quelque chose qui serait vraiment une bonne nouvelle, je dirais, pour cette économie américaine. Pour le moment, donc, la décision a été reportée. L'analyse est apportée par Madame Yellen dans son communiqué, puis dans sa conférence de presse, laisse quand même attendre un peu de prudence accrue, plutôt une prudence accrue de l'ensemble des membres du FOMC. Hein. C'est d'ailleurs ce qui ressort des dots, des fameux dots, les prévisions de chacun des membres de ce FOMC. Donc clairement, on prend en compte la situation internationale, les marchés, la volatilité actuelle, les craintes hein, sur le Brexit, les craintes sur la Chine, qui reste un sujet, entre autres, d'inquiétude sur le moyen terme. Et donc la Fed est prudente et estime qu'il n'y a pas urgence à monter immédiatement, donc prend son temps pour normaliser. Vraisemblablement un ou deux mouvements sur la fin de l'année, c'est ce que, en tout cas, nous anticipons.
Donc, ce qui fait, quand on regarde les performances, on va avoir des performances sur l'obligataire. Encore une année qui va être bonne pour l'obligataire.
Voilà,
une
de
année
nouveau,
de plus.
Une année de plus. Et pourtant, Dieu sait si nous anticipons la fin de ce mouvement depuis longtemps, mais on est à chaque fois un petit peu surpris par l'évolution de ces taux longs.
Donc là, on est encore un petit peu dans le flou, mais on n'est pas encore sur cette repentification attendue.
Pas encore. Alors si les choses se passent bien, que les Anglais restent dans l'Union européenne, que la Chine continue de se stabiliser telle qu'on le voit aujourd'hui, que les élections espagnoles se passent à peu près correctement, il nous semble qu'à ce moment-là, on reviendra sur les fondamentaux. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura une réaction des marchés. Nous, c'est l'un des risques hein, que nous avons en tête, un risque obligataire de repricing, tout bêtement, des taux longs, notamment américains.
Oui, ce que là, on a vu en Europe, effectivement, l'événement des derniers jours, c'était le Bund allemand, un Bund à 10 ans, qui, effectivement, lui, était passé en territoire négatif. Donc là, on arrive un peu dans des territoires, quand on regarde les trillions, parce qu'on parle de trillions de dollars de taux négatifs dans le monde, une période qui est quand même compliquée pour l'investisseur.
très compliqué pour l'investisseur, très compliqué pour beaucoup de secteurs, notamment le secteur bancaire, le secteur de l'asset management. Ça oblige à revoir les modèles, hein, les stratégies d'investissement tout à fait sur cette période très très compliquée.
Alors, on pourrait dire que si ces taux américains remontent un peu plus tardivement dans l'année, est-ce que ça redonne un attrait au marché émergent? Parce qu'on avait souvent en tête, on entendait dire, si on a cette hausse des taux, ça ne va pas être bon pour les marchés émergents. Bon, marchés émergents qui ont été largement mis de côté par les investisseurs.
Voilà, moi j'ai un peu le sentiment que le mouvement a été quand même largement fait depuis mai 2013, hein, puisque la première crainte, hein, de remontée de taux date de mai 2013. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, notamment côté des marchés actions émergents, on a vu un très fort ajustement à la baisse. Les devises ont très, très largement aussi corrigé. Donc il me semble que l'essentiel du mouvement de correction est fait aujourd'hui, et qu'il y a un potentiel de rebond de ces marchés. On l'avait vu, hein, il y a deux mois, un semblant de redémarrage avec la baisse du dollar. Le fait que Mme Yellen donne un petit peu de temps encore, ça c'est plutôt positif pour les émergents. Après, dans les émergents, on parle toujours d'une classe d'actifs au sens global. Je crois qu'il va falloir, là aussi, dès qu'on aura passé cette période du Brexit, revoir un petit peu les fondamentaux. Il y a des pays qui peuvent très bien s'en sortir, même s'il y a une remontée de taux américaine, parce que de toute manière, on n'anticipe pas un mouvement très fort. Donc il y a beaucoup de pays qui n'ont pas besoin, hein, de se financer sur les marchés extérieurs ou de façon très modérée, qui ne sont pas endettés en dollars. Donc ces pays-là ne devraient pas trop souffrir de cette remontée de taux américain.
Alors, on parlait des politiques des banques centrales et de la banque centrale américaine. Quand on regarde au Japon, c'est le Premier ministre, finalement la politique économique du Premier ministre. Il y a des doutes maintenant, effectivement, sur ces effets, ces fameux abénomiques, qu'on avait beaucoup mis en avant en expliquant que ça allait relancer l'économie japonaise. Et puis là, on a l'impression que ça s'essouffle, là aussi.
Alors, les abénomiques, ça reposait sur plusieurs niveaux, je dirais, de réformes. Vous aviez des réformes structurelles de moyen long terme, accompagné d'effets plus conjoncturels, et ça c'était la BOJ qui faisait baisser l'yen par sa politique d'expansion quantitative, et ça permettait de soutenir l'économie. On a eu les premiers effets. Le problème, c'est que le Japon vit dans un monde qui bouge et est très lié à la conjoncture notamment émergente et asiatique. Donc forcément, avec ce ralentissement qu'on observe surtout depuis l'été 2013 dans les pays émergents, il n'y a pas eu l'accélération de demande extérieure qui aurait permis d'enclencher quelque chose d'un petit peu plus durable pour le Japon. Et puis, M. Abe héritait de la décision du gouvernement, prise par le gouvernement précédent, de monter la hausse de TVA. On le voit de nouveau, des Japonais allergiques complètement, hein, la TVA, c'est clair. Donc une demande intérieure qui s'est trouvée complètement anémiée et anesthésiée par cette hausse de TVA. Alors, on commence seulement à sortir des effets de la hausse de 2014. Donc l'un des points positifs récents, c'est le report de la troisième hausse de taux de TVA, pour le mois d'octobre 2019. Ça laisse un petit peu de temps. Et puis, plus le temps avance, plus on reçoit quand même les effets bénéfiques des réformes structurelles de moyen long terme de cette économie prise par M. Abe dans le cadre des Abenomics. Là, c'est très long encore à venir, mais vous avez une économie japonaise qui ne va pas vite, mais qui va au-dessus de son potentiel. Depuis déjà, on a comblé l'output gap. Donc, clairement, on sort de cette période de déflation. C'est pas encore assez vigoureux, mais il veut relancer la natalité. Un bébé, il faut un certain temps, et puis il faut l'élever, et de façon à ce que... Donc les effets se verront à moyen terme, mais sûrement pas demain.
Alors le mot de la fin sur l'évolution de l'allocation d'actifs, parce que on parlait des marchés actions européens, comment évolue l'allocation d'actifs?
Alors, chez nous, CPR, nous avons la gamme croissance, hein, des fonds d'allocation d'actifs purs, monde, donc ce qui nous permet d'aller chercher un petit peu de sources de rendement un petit peu ailleurs. Alors effectivement, de par notre définition, nous sommes toujours très présents sur le marché américain. On voit que le marché action américain est plus résistant, défensif dans ces phases de stress et de retour d'aversion au risque sur les marchés. Donc on a une part de notre actif qui est investi sur ces marchés actions américains. On est toujours sur le marché européen, même si, comme je vous l'ai dit, on a adopté des couvertures via des options de façon à se protéger à très court terme. Voilà. Et puis nous avons tenté de nous diversifier un peu. Donc nous avons pris quelques mines d'or depuis quelques semaines maintenant, quelques moi, ce qui permet d'avoir une diversification et un actif plutôt décorrélé au marché actions, ce qui est plutôt intéressant. Et nous avons monté un début de position sur les émergents, justement, en action plutôt côté Asie, hein, puisque c'est ce que nous pensons, la zone que nous pensons la plus dynamique, enfin en potentiel le plus dynamique dans les prochains mois, et également une position sur la dette émergente qui offre des rendements encore intéressants.
Merci à Laetitia Baldeschi.
Merci.